Retour dans ce débat sur Alpe 1, dernier débat avant le premier, deuxième tour des législatives ce dimanche. Ce soir, deuxième circonscription des Hautes-Alpes avec Arnaud Murgia, candidat d'hiver droite, et Joël Giraud, candidat de la République En Marche. Et on va poursuivre sur l'idée du désenclavement et cette fois on va se tourner vers le réseau ferroviaire. Oui. Johan.
Question pour tous les deux concernant le train. Pourquoi est-ce si difficile de désenclaver ce territoire? Est-ce qu'un simple député peut faire bouger les lignes?
Alors, question posée à Arnaud Murgia.
Un député peut faire bouger les lignes, mais tout le monde doit faire bouger les lignes. La situation actuelle est la suivante. Il reste deux lignes de train de nuit en France. Il y en avait 12 il y a encore 2 ans. Et on a un seul sujet, c'est de lancer le plus vite possible la modernisation de cette ligne, qui a des voitures, qui a des locomotives dans un état qui n'est pas acceptable. Et...
Les locomotives laisser, ont été changées, elles sont
laisser,
modernes.
C'est les voitures. Laisser le train dans cet état-là, vous savez ce qu'on dit quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Inévitablement, dans cet état-là, vous aurez une ligne qui sera de moins en moins rentable et dont on finira par nous expliquer qu'il faut la quitter. Donc ça, c'est le sujet, très clairement, du train de nuit, où il faudra une mobilisation claire, concrète, de tous. Et surtout, rappelez aussi, parce que vous avez là-dessus une habitude qui souvent m'amuse, c'est que vous faites un communiqué de presse pour taper sur la SNCF à chaque fois que le train est en retard, qui sont d'ailleurs souvent très amusants et j'apprécie tout à fait votre humour. Il faudra quand même à un moment rappeler que la SNCF n'a qu'un seul actionnaire à 100% qui s'appelle l'État. C'est-à-dire qu'à un moment...
Apparemment, ça ne les effraie pas plus que ça. Hein.
Pardon.
Je disais apparemment, ça ne les effraie pas plus que ça. Une personnalité oui, comme Christian Estrosi a tapé du poing sur la table, a menacé...
Oui, mais
on peut
attendez,
pas considérer aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de changements. Alors là, pour le coup, je parle pas du train de nuit, vous m'avez compris, mais enfin, dans l'esprit.
Oui, mais enfin, il se trouve justement que le président de région a quand même dit que maintenant, si ça fonctionnait plus, on ferait autre chose. À partir du moment où il y a une ouverture à la concurrence, pourquoi pas? C'est-à-dire que maintenant, il faut des résultats. Il se trouve, mine de rien, que avec le conseil départemental, la région, l'État, il y a des investissements très lourds qui sont faits sur l'étoile de Veynes pour 16 millions d'euros, 5 millions d'euros entre Mont-Dauphin et Briançon sur l'ensemble des ouvrages d'art et en l'occurrence des tunnels. On peut pas faire ça pour rien. Donc maintenant, il faut y aller. Deuxième sujet, c'est bien évidemment la
gare de
Suse.
Vous pensez simplement qu'un opérateur privé pourrait aussi maintenir le train de nuit?
Moi, à titre personnel, je n'y suis pas forcément très favorable. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais qu'on nous donne les garanties d'une amélioration. Je voudrais quand même juste dire une chose sur la question du train de nuit. On avait 6 équivalents temps plein au Technicentre de Briançon il y a encore 2 à 3 ans. On en a 2,5, ce qui veut dire que inévitablement, vous ne pouvez pas assurer une qualité de service dans ces conditions-là. Donc ça, c'est la question. Après, si vous voulez, on ne rentre pas dans la deuxième question. Je ne sais pas si vous voulez passer la parole à M. Giraud, mais deuxième sujet dont il faudra parler aussi, c'est bien entendu la question de la gare de Suse et du futur TGV Lyon-Turin qui pourrait potentiellement placé Briançon à un peu plus de 4 heures de Paris. C'est un vrai sujet d'avenir que de réfléchir à la connectivité, avec cette future gare.
Merci Arnaud Murgia. Alors Joël Giraud, au-delà des billets d'humeur que soulignait Arnaud Murgia sur les retards...
Ce sont des billets d'usager puisque je prends le train.
Cette idée du désenclavement à travers le ferroviaire.
Bah, écoutez, première chose, sur le train de nuit. Bon, parlons de ce train de nuit, parlons des choses de la compétence de l'État, déjà. Il y a deux choses qui sont de la compétence de l'État sur la ligne. C'est le cofinancement des infrastructures, d'une part, et c'est, d'autre part, la problématique du train de nuit. Le reste, effectivement, est de compétence régionale. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes niveaux. Cela étant, vous allez me dire que si la voie ferrée est complètement en déliquescence, la région n'arrivera pas à faire fonctionner le système, que ce soit la SNCF ou un autre. Donc, déjà, il a fallu aller, effectivement, chercher de l'argent, parce que là, tout simplement, l'État ne voulait pas mettre d'argent sur ces lignes secondaires dans la mesure où il n'y a pas un TGV, pas un train grande ligne hormis le Paris-Briançon. On y est arrivé, donc tout va bien, et ça s'est fait malgré les grands cris de M. Wauquiez, ça s'était fait avant que lui-même n'arrive entre les deux précédentes présidentes de région.
Vous avez été quand même de mauvaise foi sur cette histoire,
mais, non,
en l'occurrence.
Le contrat de plan a été signé, écoutez,
vous parlez de la ligne
je parle
entre
Veynes
et
Valence-Briançon.
Vous parlez de la ligne entre Veynes et Grenoble.
Je parle de la ligne Valence-Veynes-Briançon. Je parle de cette ligne-là où nous avions obtenu les financements de l'État qui n'étaient pas du tout acquis. Bon, nous y sommes aujourd'hui. Il y a des dysfonctionnements au sein de l'entreprise. C'est vrai, il y a des dysfonctionnements syndicaux, si je le dis très honnêtement. Aujourd'hui, le train Paris-Briançon arrive en ce moment avec 2 heures de retard. Vous savez pourquoi? Parce que dans le programme d'amélioration de la ligne, il y a l'automatisation de l'ensemble des infrastructures jusqu'à 10 de façon à pouvoir mieux faire croiser les trains et autres. Voilà. Et les agents sont en grève pour refuser l'automatisation, pour garder des postes. Voilà. Donc,
je voudrais quand même même juste qu'on revienne sur ce que vous avez dit, parce que c'est quand même important.
Qu'est-ce qu'il y a?
Vous nous avez quand même expliqué, en agitant le chiffon rouge, que c'était de la faute à M. Wauquiez, qui venait d'arriver à la région, si on faisait pas... Si on n'est pas les financements pour la partie de cette
ligne. Non, pas les financements.
Mais bien sûr que si. Et vous,
parce qu'il avait envie de redéployer les financements sur d'autres lignes.
Déjà, un, c'était faux. Et de deux, c'est quand même très amusant. Vous avez été combien d'années à la région PACA?
Moi? J'ai fait deux mandats à la région PACA.
Voilà, bon. Et donc, vous ne saviez pas qu'il y avait des travaux à faire là-dessus?
Mais figurez-vous.
Il faut que ce soit les deux nouveaux présidents de région qui arrivent et qui s'en occupent.
Non, mais figurez-vous que le contrat de plan pour les deux régions
les derniers travaux qui ont été faits là-dessus.
En 2014, je vous signale que c'est avant le changement de majorité.
Les derniers travaux qui ont été faits quand même là-dessus, je vous rappelle, c'est l'ancien vice-président au transport de la région Rhône-Alpes qui le disait dans un article de presse. Date de 2007, ils avaient fait de très courts travaux, ils ont trouvé des rails qui dataient de 1870. Donc, j'imagine qu'en 10 ans, à mon avis, vous aurez pu peut-être éventuellement vous en apercevoir.
Il y a 10 ans.
Comme d'habitude, personne n'est responsable de rien.
Mais tout le monde est responsable de tout. Il y a simplement un contrat de plan qui a été signé à l'époque avec un paquet qui était un paquet d'argent pour les lignes secondaires, qui sont les lignes secondaires entre la région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il s'agissait simplement de les affecter sur la bonne ligne.
Ce que vous dites, c'est que vous étiez entre deux plans. Ce que vous nous dites, c'est que vous étiez entre deux signatures, c'est ça? Quand vous avez siégé à la région?
Pas du tout. Moi, j'ai siégé. Je vous rappelle que j'ai démissionné de la région il y a déjà un certain temps. Mais simplement, j'ai suivi au titre du comité de massif des Alpes parce que nous avons rapproché les deux régions pour qu'elles tiennent le même langage et que nous ayons une action avec les deux vice-présidents de transport qui étaient Jean-Yves Petit d'une part et Eliane Giraud d'autre part. Nous avons eu une action pour que de l'argent soit mis sur ces lignes secondaires. Oui. Voilà. Et c'était dedans. Finissons avec ça parce que c'est vraiment terrible. Et effectivement, sur le Paris-Briançon et sur tous les trains de nuit en France, parce que moi, je me projette un petit peu au-delà du Paris-Briançon sur l'ensemble de la desserte des trains de nuit. On a sauvé le Paris-Briançon et le Paris-La-Tour de Carole. OK, parce qu'on s'est mobilisé, les citoyens, les élus. Mais au-delà, nous sommes le seul pays d'Europe qui, aujourd'hui, a abandonné les trains de nuit. Les trains de nuit sont redevenus des trains confortables, efficaces,
Donc on fait appel à la concurrence,
l'égide. L'espèce, c'est une concurrence publique, puisque c'est les chemins de fer autrichiens qui ont été mandatés par l'Union européenne pour reprendre les réseaux italiens, allemands, suisses, etc.
Donc,
pays
à l'appel à la concurrence,
donc,
absolument, c'est
oui,
public.
À un réseau européen de trains de nuit qui, à mon avis, peut être très bien géré par les chemins de fer autrichiens puisqu'ils gèrent l'ensemble des autres réseaux et qui sont des trains de nuit confortables et pas comme le train de nuit actuel qui est effectivement d'un niveau de confort qui pose problème.
Joël Giraud. Autre question, autre thème, Johan.
Oui, un mot sur le social, fait de société, les migrants qui campent devant la MJC de Briançon, qui font la grève de la faim à Embrun, ont-ils raison de manifester pour demander l'asile en France? Faut-il revoir les accords de Dublin?
Question posée à Joël Giraud.
Ben écoutez, moi je l'ai dit, le président de la République l'a dit également, il faut qu'on revoie les accords de Dublin, parce que le système qui consiste à renvoyer dans le pays où ils sont entrés les gens de manière systématique pose un énorme problème. Il faut d'autant plus les revoir que l'application en France est une application à deux vitesses. Soit vous êtes sur Calais et vous êtes ce qu'on appelle immédiatement dédubliné, c'est-à-dire vous avez le droit d'asile en France sans aucun problème. Soit vous arrivez, pas de Calais, mais d'ailleurs, ou alors vous êtes passé par un autre site en venant de Calais, et cette fois, on vous propose la reconduite dans le pays d'origine, qui en général vous reconduit également dans le pays dont vous êtes parti, ou en général votre famille a été assassinée, ou un truc comme ça. Donc oui, il faut revoir les accords de Dublin, le président de la République l'a dit, le sujet aujourd'hui, c'est quel type de moratoire en attendant la révision des accords de Dublin.
C'est ça, à très court terme.
Moi, je l'ai demandé, je l'ai redemandé dimanche soir au chef de l'État, à son directeur de cabinet, au ministre de l'Intérieur, qui est un peu coincé sur ce sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je l'ai redemandé parce que sur le plan humain, moi, je ne peux pas supporter ce qui se passe ici, ce qui se passe à Embrun, parce qu'il y a un moment où un minimum d'humanité doit conduire les gens, tout simplement, à faire en sorte que des personnes qui sont dans des situations où la demande d'asile est légitime, et regardez ce qui se passe en Allemagne, 75% des demandes sont acceptées, en France, on en est à 18 à 20%. On est le 25e pays sur ce plan-là. En Allemagne, je sais que la situation de l'emploi est un petit peu différente de celle de la France, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la France n'est pas en situation de remplir les devoirs que lui impose la Commission européenne des droits de l'homme. Et ça, quel que soit le type de majorité, je dirais toujours la même chose. Et quand bien même on continuerait à ne pas vouloir de moratoire, je dirais toujours cela et je continuerai à aider pour qu'on ne dubline pas des gens qui sont au bout du rouleau, au bout du voyage, parce qu'un jour, ils ont posé leurs valises ici en croyant que c'était la fin à Briançon et qu'on arrêtait
tel voyage et qu'on leur dit aujourd'hui, voilà le billet de retour, c'est pas acceptable.
Il y a une autre question qui se pose, si on applique un dédublinage général, oui. C'est que la demande d'asile, l'instruction est très longue en France, c'est-à-dire 9 mois en
tout cas. Le président de la République s'est engagé à ce qu'on réduise effectivement ces délais pour que les choses soient décentes, parce qu'il ne faut pas effectivement faire croire aux gens, parce que le processus est très long, qu'on va un jour les garder sur le territoire si on ne doit pas les garder, parce que c'est ça aussi le sujet.
C'est quoi le délai fixé aujourd'hui?
Le délai fixé est moins de 6 mois.
Bien. Question posée à Joël Giraud, question bien sûr posée à Arnaud Murgien.
On a une opposition de fond absolument totale là-dessus. Je suis absolument opposé à la révision de l'article 14 des accords de Dublin III, pour une raison simple, c'est que il faut faire preuve d'humanité dans le regard qu'on porte sur cette situation de la migration, mais il faut aussi être capable de faire preuve de discernement. Les accords de Dublin, aujourd'hui, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un migrant arrive quelque part, c'est ce pays-là qui en a la responsabilité. Vous comprenez bien que si vous cassez ce système-là, ce sera un appel d'air formidable vers le pays qui a le système social le plus favorable. Il se trouve que c'est la France, inévitablement. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner un exemple très local. La situation, elle n'est plus tenable dans le département des Hautes-Alpes. Prenez la situation des mineurs non accompagnés, qu'il faut accueillir, qu'il faut traiter. Je ne dis pas qu'il faut mettre ces gamins à la rue, bien entendu. Aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'euros non compensés par l'État pour même pas 100 gamins dans le département des Hautes-Alpes. Ça devient financièrement, physiquement impossible. Et il faut à un moment avoir le courage de dire qu'on ne peut pas non plus continuer à crédit de mettre la main sur le cœur, pavé de bonnes intentions pour faire plaisir à tout le monde. Ça ne fonctionnera pas et cette situation n'est plus acceptable.
Donc vous, concernant, vous soutenez les expulsions.
Mais bien sûr, et excusez-moi de dire et de mettre un peu les pieds dans le plat, mais ce qui s'est passé ces dernières semaines, notamment ici, me semble parfois un peu pas acceptable. Quand on voit quelqu'un qui travaille à la MJC de Briançon, qui va chercher quelqu'un pour lui faire passer la frontière illégalement, pour lui payer un billet de train et pour l'amener à Paris,
pas d'accusation qui entraîne des responsabilités pénales.
Mais pas du tout, mais c'est pas une question de responsabilité pénale. Sauf que c'est des informations qui ont été relatées. En l'occurrence, par un communiqué de presse du parquet.
Ce que vous dites a des conséquences
de savoir
pénales.
Si c'est vrai ou si c'est pas vrai.
Ça n'a rien à faire dans
ce que je dis juste, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a un peu d'instrumentalisation autour de tout cela et que faire de l'agitation avant les élections législatives là-dessus, ça ne rend service à personne parce que ces situations, à mon sens, se règlent beaucoup mieux entre le préfet, le président du conseil départemental, les uns et les autres, et qu'en faire un enjeu politique, c'est pas une
merci,
bonne chose.
Merci, Arnaud Mujat. Simplement,
moi, j'en ferai pas
une
enjeu politique, mais oui. Je voudrais juste une seule chose, et je l'ai encore dit au préfet. Tout à l'heure, c'est que les mineurs qui sont accueillis dans le département, et je suis entièrement d'accord sur le fait que ce devrait être l'État qui prend en charge les problématiques relatives aux mineurs, parce qu'il y a des départements qui n'en accueillent pas, parce que d'abord ils ne sont pas frontaliers, ou alors parce qu'il y a des politiques de non-accueil. Ici, il y en a une, donc c'est tant mieux. Mais il faut aussi que l'on mette en place quelque chose qui est obligatoire dans ce pays, d'où que les gens viennent, ce qui est la scolarisation aussi obligatoire. Et je l'ai demandé tout à l'heure au préfet, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. Il y a des mineurs qui sont effectivement accueillis sur les finances du Conseil général, l'État a mis un peu la main à la poche sur 2-3 trucs parce que, si, sur des hébergements, je sais, parce que je lui ai demandé, parce qu'il y avait des gens, on ne savait pas quoi en faire. Mais en plus de ça, il y a un problème de scolarisation qui se pose et c'est extrêmement important que l'on puisse, lorsqu'on a décidé d'accueillir des gens, de les accueillir dans les conditions qui sont les conditions
merci,
de droit.
Joël Giraud. Et on revient dans un instant. Suite du débat, juste après la pause, entre Arnaud Murgia, candidat d'hiver droite, et Joël Giraud, candidat à la République en marche, sur la deuxième circonscription des Hautes-Alpes. À tout de suite après la pause sur Alpe 1.